exceptionnel, en direct et en public, à écouter sur FIP. FIP, une radio du groupe Radio France.
France Inter,
la voix est libre.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis.
Fin des années 50, ma grande sœur demande à mon grand-père, « Dis, grand-père, tu nous racontes la Grande Guerre ?» Il a répondu ceci, « Je ne peux pas. » Je suis mort à Verdun.
Oui, bonjour, c'est Joël de Nice. Suite à l'émission de Daniel sur le chant des crânes que j'écoutais en voiture, j'ai écrit ce petit mot. Maman et cher Lilou, demain c'est mon anniversaire, mais demain je serai mort. Putain de tranchée, putain de boue, putain de guerre. À marcher dans la boue, je ne sais plus tenir debout. J'aurai 20 ans demain et je sais que c'est fini. Je devrais crier, hurler, me défendre, mais mes yeux en ont trop vu pour attendre. Sur le plateau de crâne, sur le chemin des dames, on y restera tous. Trois assauts aujourd'hui, trois retraites en hurlant. Et demain, ce sera le dernier baroud d'honneur du général Nivelle. Les Anglais ont leurs machines, les Français leurs poitrines. Tous mes compains sont tombés, on n'a même pas le droit de les ramasser. Un seul mot d'ordre, faut avancer. Ne vous inquiétez pas, je suis devenu vieux, si vieux. Chaque éclat obus. Chaque sifflement de balle à mes oreilles a soufflé une bougie de ma vie et en deux jours je suis devenu Mathusalem. Sourd par le bruit des canons, aveugle par les lueurs des explosions, tordu de douleur par le froid et l'humidité, les dents usées par le serrement des mâchoires, je ne suis qu'une ombre. L'ombre de moi-même, l'ombre du gamin qui aimait les chants des oiseaux, le bleu des ruisseaux, le goût de l'abricot, celui de ta peau. Je ne veux pas mourir deux fois alors que l'on ne nous oublie pas, nous les poilus merdeux, morts pour qui, morts pourquoi? L'odeur de la mort, je la connais, elle est là, à quelques mètres de moi, dans les entrailles de mes amis pulvérisés. Quand la guerre finira, car elle finira, les arbres repeupleront les champs de bataille. Pense que chaque année, le sang de tous les morts viendra teinter de rouge les feuilles de l'automne. Tu sais, la chanson « Bonsoir, m'amour », je l'ai plagiée. Je la chuchote dans les tranchées. Elle est reprise tout bas, peut-être un jour parviendra-t-elle à toi. Quand je tomberai demain, j'aurai au moins repris la longueur de mon corps. Sur le champ de bataille. Amour, je vous aime.
Bonjour Daniel, c'est Marina. Je viens de réécouter la série de reportages que tu as fait il y a quelques années sur le génocide au Rwanda. Et ça m'a fait penser à cette phrase d'Habermas. S'il ne reste aucun frisson, l'horreur reviendra. Et bien, avec ce qui se passe en France aujourd'hui par rapport aux Roms, avec le racisme ambiant qui se développe, on ferait bien de frissonner un peu plus, je crois, pour ton émission.
Salut les artisans, salut les commerçants. Bon, moi, je ne sais pas si vos revendications sont justifiées. Pour tout vous avouer, d'ailleurs, je ne les connais même pas. Mais je sais que lorsque l'on revendique, ce qui est bien, c'est d'être soutenu par l'opinion publique. Et pour être soutenu par l'opinion publique, il faudrait que vous ayez une meilleure réputation que celle qui est la vôtre. Et pour ça, vous pourriez demander au gouvernement de légiférer de sorte à ce que soient éliminés de vos rangs tous ceux qui jouent pas le jeu. Par exemple, les boulangers pâtissiers, ils sont plus de 50% dans vos rangs qui vendent des viennoiseries et des pâtisseries industrielles sans jamais en avertir le consommateur. Les faux restaurateurs qui vendent également des plats industriels qui se contentent de faire réchauffer au micro-ondes sans avertir personne. Ceux qui font du dépannage à domicile, qui comptent 300 euros à une petite vieille après avoir juste changé un joint. Les charcutiers, par exemple, qui vendent du fleurimichon et autres produits industriels sans le préciser aux consommateurs. Parce que tout cela, ils nuisent aux vrais charcutiers qui font de la vraie charcuterie maison, aux vrais restaurateurs qui font de la vraie popote maison, aux vrais pâtissiers qui font de la vraie pâtisserie maison et aux réparateurs honnêtes qui comptent ce qu'ils réparent et pas plus. Donc, commencez par faire le ménage chez vous et ensuite vous verrez, vous aurez beaucoup plus l'oreille de l'opinion publique et donc celle du gouvernement. Ciao, ciao!
Merci, ciao, ciao. Merci, chers auditeurs modestes et géniaux, auditrices modestes et géniales pour ces messages. Il tue 24 000 poulets en une heure, et ils ne sont pas contents. 1 600 000 poulets par semaine, ils tuent ces gens-là, et ils ne sont pas contents. Ces gens-là, eh ben, c'est les salariés de Tilly Sapco. Tilly Sapco, c'est une des entreprises qui fait parler d'elle en ce moment dans le Finistère. 4 entreprises ferment ou menacent de fermer, GAD, etc. Vous avez entendu. Tout ça, ça vous est parvenu, ces histoires. et ses manifs et ses bonnets rouges. C'est par là qu'on va aller sur les effets du fameux modèle breton. C'était formidable, le modèle breton. C'était intensif, c'était efficace, c'était le développement de la Bretagne. Sauf que depuis pas mal d'années déjà, certains contestaient les conditions de travail, la qualité des produits, des poulets ou des porcs. Bon, et puis surtout, et aussi, enfin surtout non, après tout c'est au même niveau, les questions d'environnement. Et on sait comment ces entreprises, celle-là en tout cas, Tilly Sabco, vivait en bonne partie sur les aides européennes, les subventions européennes, mais l'Europe est en train de lâcher. On sait bien comment depuis la mondialisation, eh ben, c'est le marché ouvert. Et aujourd'hui, eh ben, au Brésil, on fait tout ça pour beaucoup moins cher. Et au Danemark et en Allemagne, on fait ça pour beaucoup moins cher. Pourquoi ? Parce que, vous savez, le modèle allemand, ouh là là, le modèle allemand. Ben, le modèle allemand, c'est qu'il n'y a pas de SMIC. Et que vous pouvez, en Allemagne, faire travailler un Bulgare, un Roumain ou un Polonais pour 5 euros de l'heure. Alors évidemment, pour nos amis bretons, les salariés de Tilly Sabco, c'est pas terrible. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils se battent. L'Europe, le gouvernement français ne font pas grand-chose. C'est une bagarre avec les autorités françaises, avec la commission de Bruxelles. Et ils ont très peur que leur usine ferme. Le 4 janvier, c'est une échéance pour eux. Pour eux, autant les salariés que le patron. Il y a, voilà, ils ont manifesté ensemble avec les mêmes bonnets rouges. Alors les gros malins disent, oh là là, ils sont manipulés par le patron. Il y a de la collaboration de classe. Bon, faut pas qu'on aille pas dans ces coins-là. En tout cas, c'est l'angoisse pour tous, y compris le patron. Et c'est la colère pour tous, y compris le patron. Et c'est là qu'on va aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bosse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Amis de Lille et du Nord, bonjour. Ce lundi soir à 20h, au Café Repère L'Imaginaire, nous recevons le collectif Solidarité Rome, Bourse du Travail de Lille FIV. Martine Verdonc de Solidaire et Secrète Lazare, représentant des Roms, nous présenterons l'action et la situation. Venez donc nombreux dans le Vieux-Lille, au Café Repère L'Imaginaire, à 20h ce soir.
Bonjour, nous sommes des salariés de Courrier International en bagarre contre un plan de licenciement qui va toucher 59 personnes. Vous pensez que c'est parce qu'on perd de l'argent ? Même pas. C'est parce qu'il faut qu'on en gagne plus pour satisfaire nos propriétaires qui sont les mêmes que ceux du journal Le Monde. Ils ont décrété qu'il fallait qu'on fasse 800 000 euros de marge d'exploitation. Comment ? Comme d'habitude, en coupant dans la masse salariale. Cette fois, c'est non. Nous ne sommes pas d'accord parce que Courrier International n'y survivra pas et parce qu'il n'y a aucune bonne raison de licencier dans une entreprise de presse qui ne perd pas d'argent. Tous ceux qui veulent dire non avec nous, nous les invitons à signer la pétition Sauvez Courrier International. Vous trouverez le lien sur le site labas.org ou sur Google. Nous vous invitons aussi à manifester par toute façon qui vous paraît utile votre soutien aux salariés. Par exemple, en écrivant à la direction de Courrier International ou au journal Le Monde. Bonne journée à tous.
Voilà, ce que je me suis dit quand je suis arrivée, c'est j'avais un compte à CD de 3 mois, c'était... Je suis entrée et j'ai dit à mon mari, je crois que je fais les 3 mois, mais j'y retourne plus, quoi. Les cauchemars, la nuit, la première fois, je voyais à la place des poulets, passer dans les modules de découpe à la chaîne, je voyais des gens accrochés ou qui étaient en train de prendre un membre, à droite, à gauche, des pertes d'équilibre, ça c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Dès que la chaîne s'arrêtait, je tombais. Quand tu es dedans, tu t'en rends même pas compte, je crois. J'ai vraiment l'impression. Mais moi, venant de l'extérieur, quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que ça change. Donc, je me suis investie dans le syndicat. Et notre vie, elle est illusée.
Oui.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, avec Anaël Verzo. Poulet, bonnet, rouge.
Flight number 2, arriving from...
On est arrivé en Bretagne, à Brest, alors c'est un temps breton, il pleut, mais alors des trompes d'eau, et on est en voiture avec Martine qui travaille à Tilly Sapco, c'est ça Martine?
Oui, tout à fait, oui.
Et on est en route pour l'usine là?
À Guerlesquin.
À Guerlesquin, c'est à combien de kilomètres de Brest à peu près Martine?
Oh, je dirais une centaine à peu près, même pas. Alors moi j'ai commencé à travailler chez Tilly en 1979 dans l'abattoir. J'étais ouvrière comme tout le monde et puis voilà, j'ai changé de poste au fur et à mesure de mon temps, quoi.
Vous étiez ouvrière, vous étiez à la chaîne?
Oui, j'étais à la chaîne, tout à fait. Oui, j'étais à la chaîne, j'étais à l'éviscération, j'étais au conditionnement, enfin tous les postes qui peuvent exister dans l'usine. Puis en 2006, je suis venue aux achats. Et à partir du mois de janvier, si on a bien compris, si on n'a pas de réponse de notre cher gouvernement, eh ben, on pourra aller... pointé au chômage comme tout le monde, quoi.
C'est des paysages, il y a la forêt hein, à gauche, à droite.
Ouais, il y a la verdure, c'est ça qu'on est. Avec ça, on a de la chance, on dit qu'on a de la pluie en Bretagne, mais on a une belle verdure. On est fiers de notre Bretagne, ça c'est sûr. Ah, je suis pure bretonne, moi, ça c'est clair, ouais.
Vous êtes allé manifester samedi dernier avec les bonnets rouges?
Ouais, on a participé à toutes les manifestations samedi. Ce qu'on se bat surtout, c'est pour notre emploi. Et aujourd'hui, quand on parle de nous, on parle avant tout de l'écotaxe, quoi. Et aujourd'hui, malheureusement, qu'on vienne pas nous dire qu'on ferme et on trouvera du travail comme on l'a fait chez GAD, on vous restructurera dans d'autres entreprises à côté agro, alors qu'on est tous en train de fermer. Ça, c'est du vent, ça. C'est du vent. Malheureusement, c'est que du vent. On va y arriver, là.
Ah, on arrive à Guerlesquin?
Oui. C'est une maison de retraite qui est juste à côté, là.
Ils sont solidaires avec vous?
Ah, tout à fait. On a eu à la manifestation de Rennes, quand on est venu, des gens qui étaient en retraite, qui revenaient même de... Parce qu'il y avait des Portugais qui revenaient du Portugal et qui sont venus le jour même, en sortant de l'avion, à venir prendre le car avec nous pour venir à la manifestation. Donc, c'est pour vous dire. Hein.
Des anciens salariés de Tilly Sapco qui sont retournés au Portugal.
Oui, oui,
oui. Et qui sont venus ici spécialement pour manifester.
Ouais.
Ça y est, est arrivé.
Là, on y est arrivé, oui. À Guerlesquin.
On arrive à Tilly Sapco. Oui. Voilà, il y a l'usine juste là. Un grand hangar blanc. Et avec une poule. C'est le logo de Tilly Sapco.
C'est ça, oui. Ouais. C'est notre logo. Oui, tout à fait.
C'est un poulet avec une tête rouge et une crête bleue.
Bleue, voilà.
Et là, il y a un grand camion qui doit transporter les
poules. C'est pour le massage des poulets, ça. Oui, oui.
On va descendre.
Oui.
Là, je vais fermer parce qu'il pleut.
Boulot bas de gamme, bon. Poulet bas de gamme, bon. Environnement bas de gamme, bon. Ouais. Enfin, c'était mieux que rien. En Bretagne, depuis longtemps, on connaît les effets de l'agriculture intensive qui s'est imposée, qui a été choisie depuis les années 60. L'agriculture classique, vous savez, les paysans, là, oh là là, avec leurs lampes à huile archaïques et leurs bœufs et leurs charrues, tout ça, c'est démodé. On allait faire de l'intensif, on allait faire de l'industriel, on allait faire de l'exportation et on allait être soutenu grâce à la politique agricole commune. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. On a fait des cochons en pagaille, on a fait des poulets en pagaille et c'était le modèle breton, boulot bas de gamme, poulet bas de gamme, environnement bas de gamme, mais c'était mieux que rien. Et puis, avec la mondialisation, avec la concurrence, eh bien, voilà qu'au Brésil, on fabrique tout ça pour beaucoup moins cher. Je le disais en commençant, et vous le savez, et ça ne vous a pas échappé, en Allemagne, on arrive à fabriquer des poulets pour infiniment moins cher, enfin, en tous les cas, beaucoup moins cher qu'en France. Alors évidemment, il y a toutes sortes de catégories d'élevage de poulets. Il y a des poulets de louer, des poulets de qualité. Et ces entreprises-là ne sont pas trop menacées actuellement. C'est plutôt des entreprises comme celle-ci, comme celle où nous nous trouvons, qui vit Sapco, qui sont beaucoup plus menacées. Parce qu'ici, on fabrique du poulet, oui, un peu bas de gamme, il faut bien dire la vérité, pour l'exportation à destination du Moyen-Orient. Et pour ce faire, on a des subventions européennes. Et voilà que l'Europe ne joue plus le jeu. C'est plus possible de soutenir ce domaine-là, ces entreprises-là, et cette entreprise-là en particulier. Alors les salariés, évidemment, sont très inquiets. Les patrons, le patron, vous allez l'entendre, est très inquiet. Et si l'Europe ou le gouvernement français, et le gouvernement français, peut-être les deux, ne font pas grand-chose, eh bien, Tilly Sapco, cette entreprise, ce sera toute activité le 4 janvier prochain. Angoisse et colère pour les 350 salariés qui se battent aux côtés de leur directeur, qui lui aussi est angoissé et en colère pour que l'Europe réagisse et soutienne cette entreprise. Ils ont manifesté le 2 novembre à Quimper avec les bonnets rouges et on va passer cette heure avec eux. C'est là-bas si j'y suis. Poulet, bonnet, rouge.
Le bus vient de le déposer. Il pointe et ne reverra le jour qu'avec la rosée. D'ailleurs, l'odeur lui donne déjà la nausée. Il rentre dans le vestiaire, défait le cadenas ou son casier, pose le cuss du casse-dalle, enfile sa blouse et s'assied. Enlève ses chaussures, met les chaussures de sécurité, prend ses gants, son cutter, quelques pièces pour le café. Il regarde l'heure, plus que 5 minutes avant de commencer. Il referme à clé, gavé d'avance, rien qu'y penser. Puis pas à pas, se dirige lentement vers sa machine. Regarde la mine des autres, fatigué mais content de quitter l'usine. Écoute les consignes du gars de l'équipe précédente. S'il y a rien, c'est bon signe, la nuit sera moins fatigante. 21h pile, le gars lui souhaite bon courage. Ramasse ses affaires et file, le v'là face à l'ouvrage. Pas le temps de s'installer, deux pièces à contrôler, à emballer vite fait avant que deux autres prennent le relais. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter. Couper, séparer, jeter, c'est ça le boulot. Couper, séparer, jeter toute sa vie.
Je le rappelle parce que je pars sur l'usine. Là. Je le rappelle, je vais le rappeler dans l'après-midi. Là. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Ok.
Vous êtes Eric ?
Oui, c'est ça. Eric Le Bolch.
Et vous travaillez aussi à Tilly Sapco ?
Oui, je travaille chez Tilly Sapco depuis 1981. Presque 35 ans.
Mmh.
Voilà.
Et qu'est-ce que vous faites ici ?
Alors, je suis aujourd'hui, j'ai la responsabilité des achats et investissements sur le site.
Depuis le début ?
Au début, donc j'ai commencé comme magasinier.
D'accord. Et c'est avec vous qu'on va faire la visite de l'usine ?
Effectivement. Donc, je vais vous faire visiter l'ensemble de l'outil industriel.
Bonjour. Ça sent ? Il y a une odeur ?
Oui, oui, alors là, c'est les coproduits qui. La cuisson des coproduits. Alors, les coproduits, c'est les têtes, pâtes et viscères qu'on cuit pour faire de la farine pour le marché pet food.
Ah, oh là là ! Oh là là, il s'est pris une grande flaque.
Ah ouais, il fallait surtout pas passer par là.
On rentre dans une pièce, c'est là qu'il y a tous les équipements.
Voilà, je vais vous donner une blouse, donc des bottes et puis une charlotte pour pouvoir visiter parce que c'est la règle au niveau sanitaire. Une charlotte rouge, c'est pour mettre sur la tête, pour protéger vos cheveux.
Un petit chapeau.
Un petit chapeau rouge, le bonnet rouge.
Ouais, c'est le bonnet rouge.
Tenez.
Merci.
Hein? Et puis je vais vous remettre aussi une blouse blanche.
Pour, d'accord, alors je vais mettre... Le bonnet rouge. Elle est grande cette usine, Eric.
Oui, elle est très grande puisque effectivement
À l'époque, dans les années 80, c'est une usine qui tuait 1 600 000 poulets, mais en 8 heures, au lieu d'aujourd'hui où quelqu'un est en 3 fois 7 heures.
Et combien de poulets ?
1 600 000 semaine.
1 600 000 poulets par semaine.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, on va poursuivre vers le quai d'accrochage.
Ça sent très très fort.
Oui, effectivement, parce qu'on rentre dans le quai d'accrochage où le poulet est encore vivant, donc il y a la fiente de volaille dans les caisses et ainsi de suite. C'est pour ça que ça sent fort.
Là, c'est comme un garage. Hein.
Voilà, ici, vous voyez, donc le camion rentre dans la pièce.
Alors là, il y a des hommes qui conduisent
des chariots élévateurs, effectivement, qui leur permettent de décharger les conteneurs. Alors bien sûr, pourquoi deux engins ? Parce qu'il y a aussi deux chaînes d'abattage qui ont une capacité par conteneur de 12 000 à l'heure chacune. Donc, on a une capacité d'abattage de 24 000 à l'heure. Oui.
24 000 poulets par heure.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est le rendement.
Ça, c'est le rendement. Mais donc, nous, notre outil aujourd'hui, pour être très compétitif, il faut faire du volume. Sur les marchés sur lesquels on est, on doit faire du volume. Alors, on va aller voir le poste d'accrochage actuellement. Donc, on va voir les accrocheurs en train d'accrocher les poulets vivants. Alors, vous allez les trouver dans une zone très confinée. Avec une lumière bleue, cette lumière bleue, c'est surtout pour éviter que le poulet soit stressé avant d'être accroché sur la chaîne et surtout avant d'être électrocuté et saigné, parce que le poulet ne doit pas être stressé.
Là, on passe devant tous ces poulets qui sont vivants encore, qui sont à la chaîne et ils ont les pattes accrochées. Donc ils ont la tête en bas. Hop là, il y a un poulet qui s'échappe là.
Oui, alors ils ont peut-être été mal raccrochés. Donc vous voyez, donc il y en a deux, mais ils vont être récupérés tout à l'heure et être accrochés sur la chaîne. Là, le poulet va partir pour le saignage. C'est-à-dire qu'il va être endormi d'abord, le poulet, et ensuite il va être saigné. Et ensuite il va être échaudé pour être déplumé.
Je sais pas s'ils vont pouvoir nous parler parce qu'ils peuvent pas lâcher les mains.
Non,
hein.
Pas trop, non. Effectivement, c'est difficile là.
Voilà, là, il y a trois personnes qui sont en train d'accrocher les poulets par les pattes sur les crochets, les poulets vivants. Et ils sont dans l'obscurité, ils font ce geste répétitif. Hop, ils prennent le poulet dans la bassine et ils l'accrochent en face d'eux sur les crochets. Là, il y a des poulets qui s'agitent, qui agitent les ailes. Et il y a cette lumière très très faible, bleue, mais fait presque noir. Hein. Et il y a une femme qui a un masque d'hygiène pour se protéger, pour ne pas respirer les.
Alors ici, bien sûr, il n'y a que des hommes dans ce poste-là. Hein.
Ah, il n'y a pas une femme là au milieu ?
Non, c'est un homme.
Vous êtes sûr ?
C'est vrai qu'on a du mal à les reconnaître avec leur chalotte, mais non, il n'y a que des hommes. Hein. C'est un travail trop pénible pour qu'il y ait des femmes, donc on ne peut pas se permettre de mettre des femmes là. Du matin jusqu'au soir. Pendant les 7 heures de travail, ils sont dans le noir. Alors ici, au-dessus, on voit déjà le poulet encore avec des plumes, vous voyez. Il vient d'être abattu, saigné, et on voit le canal de saignage, là. C'est là qu'on récupère tout le sang.
Plein de poulets qui défilent sur les tapis roulants et ça pue. Il y a plein d'eau partout parce que les poulets sont arrosés. Là, on voit les poulets devant nous qui sont en train de tomber dans l'eau.
Voilà, effectivement, vous voyez d'un bain à un autre, on voit les poulets en train de tomber dans les bains. Alors, vous voyez ?
Ils sont aspergés d'eau et l'eau, elle est rouge.
Alors, l'eau est rouge, mais malgré tout, elle est traitée, donc elle n'est pas sale, l'eau. C'est uniquement d'une couleur rouge parce que Il reste un peu de sang, mais quelque part, l'eau est toujours recyclée.
Ça, c'est les tapis roulants.
C'est le dernier bain où les poulets sortent sur le tapis roulant. Ils viennent être déversés sur des tapis pour être calibrés.
Sur ces lignes, il y a des poulets qui défilent.
Alors, ça s'appelle l'autoroute du poulet, parce qu'effectivement, quand on est en bout de ligne et quand on voit le fond, on croirait qu'on est sur l'autoroute. Hein, voilà. On appelle ça l'autoroute du poulet chez nous.
Un poulet éjecté.
Vous voyez, le poulet qui tombe dans la case là, il est convoyé dans l'atelier du conditionnement pour être encaissé dans le carton. C'est la sortie de l'autoroute justement. Quand on prend l'autoroute, il y a une entrée, il y a une sortie, voilà.
Et là, pendant qu'on défile sur la passerelle, en bas, il y a les ouvriers qui nous regardent. Là, on rentre dans un nouvel espace.
Oui, on rentre dans la partie éviscération, salle là-bas.
C'est impressionnant parce que ça fait comme des pinces à linge, mais énormes, au bout desquelles pendouillent les poulets.
Effectivement, alors vous voyez, effectivement, c'est la chaîne d'éviscération sur laquelle les poulets sont accrochés sur des crochets.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la dame?
Voilà, cette dame-là, elle contrôle, effectivement, vous voyez, si les poulets sont bien vidés, s'il ne reste pas des éviscères dans le poulet.
Les poulets défilent.
Oui, effectivement, la chaîne tourne, elle a une cadence de 8500 à l'heure. Donc, la chaîne ne s'arrête pas, donc il faut suivre, quoi.
Elle est toute seule, là, avec ses bottes en caoutchouc.
Oui, tout à fait, avec son tablier. Donc, elle passe ses 7 heures de temps à contrôler si les poulets sont bien vidés et qu'il ne reste pas des éviscères dans le poulet.
Ça sent assez fort hein, dans cet espace-là.
Comment ?
Je dis ça sent assez fort.
Ah oui, tout à fait. Mais le poulet est chaud, là, hein, il n'est pas encore refroidi. Donc, effectivement, c'est un poulet chaud, hein, donc avec l'odeur des éviscères.
Et c'est assez étonnant comme image, hein, parce qu'elle est toute seule au milieu de tous ces poulets qui défilent tout autour d'elle. Elle est vraiment cernée de poulets.
Ah oui, elle est vraiment seule. Hein, dans l'atelier, c'est la seule personne dans cet atelier-là.
Poulet. 728 120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Décembre 1998 à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé, chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet, numéro 728 120. Je t'aime, je pense à toi.
Ce qui est étrange, c'est que là, on est vraiment à la frontière, à un endroit où d'un côté, il y a les machines qui travaillent et qui font un mouvement de gauche à droite. Et sur notre droite, il y a des hommes qui travaillent et qui font aussi des mouvements qui ressemblent à ceux de la machine.
Exactement, c'est exactement ça. On a mis des robots qui permettent aujourd'hui de remplacer les hommes par la machine.
Vous êtes en train de travailler là ?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites ?
On est en train de trier les cartons.
Le tri des cartons ?
Oui, voilà. Calibre à calibre.
Vous faites ça depuis longtemps ?
Depuis 34 ans. J'ai encore moins de 10 ans à faire.
Vous étiez aux différentes mobilisations, là, pour sauver l'entreprise ?
Oui, oui. Il faut essayer de sauver quelque chose.
Là, vous avez un carton qui vient d'arriver.
Ouais. On prend le carton, on le met sur la palette. Ça dépend des calibres. Certains calibres, c'est par deux, d'autres par quatre. Ça dépend des calibres.
Là, c'est quoi comme calibre ?
14. C'est les poulets de 1,4 kg.
Qui sont dans la boîte ?
Oui.
Ah, il y a quelque chose qui est tombé là-bas. Ah,
ouais. Ça arrive, là.
Vous faites les 3-8 ?
Les 2-8. Le matin et l'après-midi.
Comment vous vous appelez ?
Jean-Pierre Le Chaumier.
Vous avez une femme, des enfants ?
Non, célibataire.
Encore un carton, et lui, c'est ?
Pareil. Parce que c'est déjà trié à l'avance. C'est sur la même ligne, tant que les mêmes calibres.
D'accord. Il y a plusieurs rouleaux comme ça qui passent. Ouais. Et puis il y a les cartons qui arrivent dessus au fur et à mesure.
Il suffit de les prendre.
Les prendre et de les mettre
sur la palette.
Sur la palette.
Mmh. Ouais. Faut mieux que ça dure. Hein.
Vous avez un bouchon dans l'oreille ?
Oui.
À cause du bruit ?
Oui, du bruit. Hein.
Ouais.
C'est la cantine, le réfectoire. Vous appelez ça le réfectoire?
C'est la cantine. C'est la cantine.
La cantine.
La cantine qui a toujours existé depuis 35 ans. Je suis ici.
76.
Ouais, elle est toujours là.
Alors, Philippe, t'es accrocheur.
Oui. Alors, je suis donc dans un îlot où on reçoit par caisse les poulets vivants, puis on les accroche sur une chaîne. Donc, il y a 14 accrocheurs, 2 fois 7.
T'es dans le noir, pratiquement dans le noir.
Oui, on a juste une petite lumière bleue. Faut qu'il y ait le moins de lumière possible, parce que autrement, les poulets s'envolent.
Ah, parce qu'ils ont peur?
Oui, ça fait partie du bien-être animal. Il y a une cadence qui est définie, et puis c'est des gestes répétitifs pendant 7 heures.
Ça fait comment les gestes?
Eh ben, on saisit le poulet par le bas et puis on l'accroche par le haut, de bas en haut, toute la journée. Je suis entré dans l'entreprise le 1er octobre 2003, un peu plus de 10 ans. C'est dur hein, parce que c'est des métiers qui sont pas faciles et mais bon, faut, à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, ben on crache pas dès qu'il y a un petit peu de travail quoi, donc. Voilà, donc on pense ce qu'on vient, hein. Même les personnes à l'extérieur qui viennent en intérim, enfin qui venaient, parce qu'il n'y a plus d'intérimaire dans l'entreprise, mais on pense que ce qui vient. En salaire net, je suis à 1 530 €.
Et c'est plus que les autres?
Oui, parce qu'on a plus de primes, c'est-à-dire que par rapport au poids du poulet, donc si le poulet est plus lourd, on a plus de primes. S'il est un peu moins lourd, on a un peu moins de primes. Donc c'est suivant la performance.
Voilà, Tilly Sapco est entreprise qui se déplume et qui est menacée. Suite à une demande du gouvernement français, la Commission européenne a proposé récemment de rencontrer les volaillers bretons qui critiquent l'arrêt des restitutions. Et les restitutions sont ces aides qui permettaient, à l'imparfait, il faut parler, aux entreprises agroalimentaires françaises de faire face à la concurrence extra-européenne, le Brésil en question. Des explications avec Daniel Sauvaget, qui est le PDG de Tilly Sapco, et je le disais tout à l'heure en commençant, qui a manifesté avec ses salariés, comme il dit mes salariés, et les salariés ont manifesté avec leur patron.
Bienvenue dans mon bureau. Cet abattoir a été construit en 1976. La vie de l'entreprise a débuté en 1956. C'est d'ailleurs assez symptomatique et intéressant, puisque c'est un peu l'histoire de l'agriculture bretonne. C'est que en 1956, les agriculteurs, il y en a de nombreux dans les campagnes, crèvent presque de faim, quoi, à cette époque-là. J'emploie ce mot un peu fort parce que c'est une réalité.
On est juste après la guerre.
On est après la guerre. La Bretagne se vide, se dépeuple. Les gens vont travailler beaucoup aux États-Unis. Il y a une diaspora bretonne, d'ailleurs, un peu partout autour du monde. On nous parle à l'époque, la capitale de la Bretagne, c'est Montparnasse, à Paris, puisqu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de quoi nourrir les gens ici en Bretagne. Première construction, début des années 60, d'un premier abattoir dans le centre-bourg de Guerlesquin. Et puis, fin des années 60, l'opportunité. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu donc le traité de Rome 58, ou la mise en place de la politique agricole commune, la loi d'orientation de 1960, qui définit les grands traits, où on dit à l'agriculture française dans son ensemble, il faut produire. L'Europe a faim. Produisez, organisez-vous, produisez. On a demandé aux agriculteurs d'être performants, produire pour nourrir l'Europe. Et dans la loi d'orientation de 60, donc complétée en 62, l'État français va demander aux agriculteurs de compléter cette mission en disant, en plus, l'agriculture doit servir au développement du commerce extérieur de la France. C'est l'étape majeure qui est franchie en 62. Et là, une fois de plus, les Bretons, entrepreneurs dans l'âme, audacieux comme c'est pas permis, aujourd'hui, le résultat de toute cette audace, c'est que la région Bretagne est la première région agricole européenne.
Audacieux comme un Breton, entrepreneurial comme un Breton, c'est normal, c'est un patron qui parle sa langue et qui a son poignet.
Vous arrivez à la tête de Tilly Sapco.
Donc je prends la direction générale à la demande des actionnaires de l'époque de Tilly Sapco en 1997. Et j'en deviens le propriétaire lorsqu'après le sinistre épisode de la grippe aviaire, où tous les marchés de l'entreprise deviennent inaccessibles. On n'a jamais eu la grippe aviaire, mais tout le cirque médiatique fait autour de ça, mondial, hein, sur la grippe aviaire, où on avait peur de tout, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce espèce de traumatisme à l'époque, les banquiers prennent peur, donc l'entreprise va déposer le bilan en juillet 2006. Et effectivement, je vais racheter donc les 40% restants de l'entreprise. Et je suis devenu, donc, je suis actuellement encore l'actionnaire unique de l'entreprise Tilly Sapco. Et on a clôturé fin 2012, donc le dernier exercice clôturé, nous étions à plus 13,5 millions d'euros. Je ne fais plus de bénéfices, je perds de l'argent. Cette année, en 2013, je vais perdre de l'argent.
À cause de la suppression des restitutions. Les restitutions sont les aides à l'exportation, c'est ça, les aides européennes.
C'est-à-dire que l'Europe, hein, c'est l'esprit de la politique agricole commune, c'est... Je me bats en face des Brésiliens au Moyen-Orient. J'ai des coûts de production, mes éleveurs, les fabricants d'aliments, enfin, tous nos coûts de production sont forcément beaucoup plus élevés, à peu près 30% que les Brésiliens. Et l'Europe compense, via ses restitutions, cet écart de compétitivité. Cette année, avec cette décision, la flambée de l'euro et l'effondrement des prix de marché, nous sommes en déficit aujourd'hui. Donc, nous avons pris la décision de suspendre notre activité sur le Moyen-Orient à partir du 4 janvier. Donc ça, c'est d'ores et déjà fait. C'est bien clair, les éleveurs restent vides, c'est fait. Si nous n'arrivons pas à restaurer une aide, quelle qu'elle soit, pour nous permettre de poursuivre notre activité sur le Moyen-Orient, nous cesserons cette activité. Donc, je devrais replier les activités de l'entreprise sur uniquement ce que je vends en Europe sur l'activité de saucisse. Ce qui veut dire que je vais peut-être conserver, dans le meilleur des cas, une centaine de salariés sur plus de 330, 340 actuellement.
Samedi dernier, vous êtes allé manifester avec les bonnets rouges à Quimper, c'est ça, pour l'emploi.
Donc,
contre l'écotaxe. C'était une double manifestation.
Enfin, j'étais parmi mes salariés dans les rues de Quimper, effectivement, avec un bonnet rouge. Ce qui est marrant, d'ailleurs, je regarde derrière moi et je vois le NPA avec M. Poutou, l'ex-candidat à la présidentielle. Je vous avoue que c'était pas commun. J'imaginais pas un jour être dans la même manifestation que M. Poutou. C'est ça, c'est la volonté de dire attention à ce que, aux décisions qu'on prend, l'écotaxe le symbolisant. Attention aux décisions que le pouvoir central peut prendre. Ne nous reprécipitez pas vers un cycle néfaste économiquement où on va encore perdre des emplois, où les gens vont partir en exode, travailler à l'extérieur. Nous, on veut au contraire continuer à développer l'économie de la Bretagne. C'est le seul dénominateur commun pour moi, c'est celui-là.
Aux commandes du tractopelle, un manifestant.
France 2. Journal de 20h.
Après quelques tentatives, le portail de la sous-préfecture de Morlaix est pulvérisé. Tous les vivats de la foule.
4 novembre 2013.
En quelques minutes, 200 salariés et éleveurs s'introduisent dans la cour. Beaucoup d'employés de Tilly Sapco, volailler breton, qui doit cesser son activité dans 2 mois.
On laissera pas tomber, de toute façon on n'a plus de travail. On n'a plus que ça à faire, d'aller emmerder les gens qui nous font chier. Alors ben maintenant, on attend leur décision et on foutra le paquet, on n'a plus rien à perdre.
Loin de conspuer leur patron, les manifestants sont venus le soutenir. Ici, le PDG discute avec le sous-préfet. Il lui demande une aide de l'État pour sauver son activité. Dès ce matin, il interpellait le ministre de l'Agriculture et ne mâchait pas ses mots.
Et que ce soit bien clair, c'est Monsieur Le Foll qui porte la responsabilité. Quand il ose dire qu'il n'a pas d'informations, depuis février, j'ai écrit des rapports et des rapports. J'ai vu des milliers de gens dans tous ces ministères. Donc aujourd'hui, ça suffit. On passe aux actes. Point à la ligne.
Il y a plein de carcasses qui sont en train de tomber.
Oui, puis là, on est en train de les trier une par une. De regarder s'il n'y a pas trop de graisse ou de cœur dedans pour éviter de les mettre dans les saucisses. Donc ça fait 24 ans que je suis dans la maison. Mais j'étais à plusieurs postes, quoi. Puis là, on attend quoi, les résultats. Parce que en Bretagne, après, pour retrouver du travail, il faudra sûrement partir ailleurs, malheureusement. Si on n'a plus rien, on n'a plus rien après.
Est-ce que vous avez mis un bonnet rouge pour aller manifester?
Oui. Oui, parce qu'on est solidaire avec toutes les autres entreprises qui sont en train de couler à droite, à gauche. Ben, on ne sait pas où on va aller maintenant.
Ça représente quoi pour vous, le bonnet rouge?
La solidarité entre chaque entreprise, la Bretagne, quoi.
Et est-ce que ça a à voir avec l'éco-taxe ou pas du tout?
Ça fait partie, mais pour moi, le bonnet rouge signifie... comment vous expliquez ça?
Contre les licenciements.
La solidarité entre chaque entreprise, entre tous les Bretons. C'est tout.
Vous êtes Breton?
Non. Normand.
Ah bah alors?
Oui, mais je suis solidaire avec la Bretagne, quoi.
Hop là, les abats qui tombent, là. Ils tombent par dizaines, hein. Par vingtaines, même, peut-être. Et hop là, vous mettez les mains dedans. Faut pas être trop dégoûté, hein.
Oh non, non, non. Maintenant, faut prendre le travail où il est. Et faut pas dire, ah bah c'est sale, c'est ça, c'est si. Maintenant, non, faut y aller maintenant.
Vous avez quel âge?
45 ans.
Donc il vous reste encore à faire, hein?
Ben oui. C'est pour ça qu'il faut tenir pour essayer de avoir quelque chose pour que l'usine tourne encore. Voilà, un petit espoir.
Ça dépend de quoi, d'après vous?
Ben, l'Europe. Avoir des subventions pour continuer de tourner.
Pour qui est-ce que vous allez voter?
Ça, je sais pas si je vais voter.
Pourquoi?
Parce que ce soit la droite ou la gauche, ils ont pas fait grand-chose pour les salariés. Un peu, mais pas... Pour moi, ils ont vu l'Europe. Mais malheureusement, pour moi, l'Europe... C'est pas si terrible que ça. Je suis mitigé. Parce que... Enlever les étrangers, c'est bien. Mais faut penser aux Français qui sont à l'étranger aussi.
Vous avez de la famille à l'étranger?
Non, pas du tout. Mais quand on suit les informations, malheureusement, ce qui se passe, si on enlève tous les étrangers en France, et malheureusement, les Français qui sont à l'étranger seront mal vus à l'étranger. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire.
Comment vous vous appelez?
Hervé Lemoussou.
Bon courage.
Merci bien.
Oh, je suis Corinne.
Je suis Corinne.
Voilà, c'est Corinne Nicole.
Qu'est-ce que tu fais, ton premier?
Moi, je vais chercher les poulets dans les élevages. Je conduis les semi-remorques. Mais j'ai pas toujours fait ça. Avant, j'ai travaillé en production, hein, à la chaîne également. J'ai travaillé aux abats, donc c'était le tri des abats, des foies et des gésiers. Moi, ça fait 13 ans que je suis là. Donc j'ai 5 enfants. Donc j'ai repris le travail quand mon dernier enfant a eu 2 ans. L'Europe s'est construite, elle s'est pas construite comme nous on la voulait en tant que salariés, Annaëlle. Comme beaucoup de monde d'ailleurs, et pas seulement les salariés. Hein. Mmh. Avant toute chose, il fallait que ce soit une Europe sociale qui se construise et pas celle qui a été mise en place. Hein. Certains y ont vu, ont eu des grands yeux, ont eu le portefeuille qui ont voulu s'ouvrir. Et puis, ils vont payer les pots cassés aussi, attention ces gens-là maintenant. Hein. Simplement, nous, on passe à la trappe également. Parce que l'Europe aurait dû se construire socialement. C'était... Il fallait prendre tout ce qui était bon dans tous les pays. Je suis peut-être naïve, hein. Voilà. Et nous, on avait quelque chose de bien, c'était notre système social. Voilà. On avait un minimum de salaire. Si on partait déjà de là, pour tout le monde, on n'aurait pas mis en concurrence les salariés. Les Polonais, les Lituaniens, ces gens-là ont besoin de travailler, ils ont des familles à nourrir. On n'est pas contre ces gens-là. Simplement, on les exploite. À qui les exploite? Voilà, ceux qui en gagnent toujours encore un peu plus. Alors moi, je veux bien, hein, l'Allemagne qui est donneur de leçons au niveau économique, si c'est pour pratiquer son économie, mais j'entends les politiques de droite et de gauche mettre en avant l'économie de l'Allemagne, mais moi, je suis désolée, c'est quand même assez surprenant de voir que ces gens-là prônent un gouvernement qui pratique le dumping social, quoi. C'est une aberration. Donc l'Europe qui s'est construite, c'est pas celle qu'on voulait. C'est pas celle qu'on voulait. Et on est en train de payer les conséquences des décisions qui... Mais voilà, quand on a voté non, on nous a pas entendus.
Lors du référendum de 2005.
Oui, entre autres. Mmh. Mais il y avait eu Maastricht avant.
Vous aviez voté non aussi.
Ça a commencé là déjà.
Oui. Donc voilà, l'Europe qui s'est construite n'est pas celle qu'on voulait. Et les propres personnes qui ont été à l'initiative de ce genre de choses vont s'en mordre la queue actuellement. Donc c'est choc, il s'est mordu la queue. Mais simplement, nous, à chaque fois, on est les variables d'ajustement. Et c'est pas normal, quoi. Ce sont toujours les salariés qui payent.
Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de rétablir les aides à l'exportation ?
Roger Veit, porte-parole du commissaire européen à l'agriculture.
Je le vois peu probable. Alors ça reste si le marché change, mais si le marché reste comme il est, non.
Soir 3, 5 novembre 2013.
Et il faut souligner qu'on a réduit cette aide à l'exportation en 3 étapes. Alors cette aide était de 33 euros par 100 kilos avant octobre de l'année passée. On a passé à 10 et puis à partir de juillet, c'était zéro.
Donc tout le monde était informé.
Oui, on a dit clairement déjà en 2010, et avec ces étapes de réduction, ça devait être clair pour tout le monde qu'on va avoir une fin de cet outil.
Il y a plein d'oiseaux là sur le camion. C'est des mouettes.
Ouais.
Goélands peut-être même, non, ils sont gros.
Oh, plus mouettes, quoi.
Ouais.
Les deux sont attirés par les plumes qui font pour serre pour farine animale.
Voilà. Merci. Bonjour.
Salut.
Bonjour. Anaël.
Bernard.
Jérémy.
Enchanté.
Bonjour Michel.
On reste un peu avec vous ?
Oui, oui.
C'est la salle de pause. Vous vous appelez comment ?
Bernard.
D'accord.
Je suis rentré ici en 81.
Alors, il y a 32 ans. Tout à l'heure, il y a un rendez-vous avec Stéphane Le Foll, avec le ministre de l'Agriculture.
À Rennes.
Ça correspond à vos attentes ou pas, ce rendez-vous-là ?
On aurait aimé avoir des réponses plus rapides et plus précises aussi.
Ouais. On est un peu déçus parce que ça fait un moment déjà qu'on a fait des appels, et puis il n'y a rien qui vient. Et c'est logique, notre appel au secours, il est logique quand même, parce que si notre monnaie elle est plus élevée et qu'on vend à perte, on ne peut pas être au même niveau que le Brésil, on ne pourra jamais vendre. On n'est pas très optimiste, hein. C'est clair que les gens, ils espèrent, on espère tous, hein, qu'il reste, on a un petit espoir de garder notre emploi, mais on sait très bien que c'est derrière, on n'a aucune aide, on sait très bien que
ça va être compliqué,
ouais. Ouais. Malgré que je pense que du poulet, ça doit se vendre, ça se vend, et c'est une des viandes les moins chères du marché. On ne comprend pas, quoi.
Il n'y a aucun tabou sur ce type de viande, donc il n'y a aucun problème, normalement, voilà. Ça doit se vendre bien.
Ouais, s'ils n'ont pas une enveloppe pour nous sauver,
Une grosse enveloppe.
Ouais, c'est pas une petite. Hein.
S'il n'y a pas de changement, le 4 janvier...
S'il n'y a pas d'enveloppe, c'est fini le 4 janvier. On est tous dehors le 4 janvier s'il n'y a pas d'enveloppe. Et on espère qu'il y aura une enveloppe. Bon, on a hâte de savoir parce que c'est stressant, la tombe. Stressant, fatigant.
Ouais. Bon, sur ce, nous allons retourner travailler quand même.
Ouais. Vous avez prévu de refaire une grève ou pas ?
Pour l'instant, non, mais on attend. On attend de savoir s'il va y avoir une enveloppe, une bonne enveloppe. Mais si on nous dit non, alors ouais.
À mon avis, ça va barder.
Ah bah, ça va barder, il n'y a pas de choix.
C'est clair.
On se battra jusqu'au bout.
On continuera, de toute façon. On n'a plus rien à perdre, de toute façon.
Ouais.
On ira jusqu'au bout. Hein.
C'est maintenant qu'il
faut se... Je n'admets pas qu'une usine comme ici se casse la gueule.
Corinne, Nicole, Pascal, Voiry, Philippe, Martine, Eric, Gilbert et tous les salariés de Tilly Sapco ainsi qu'à Daniel Sauvaget, le patron, et Julie Desbois. C'était un reportage d'Anaël Verzo. Demain, la suite, vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, et sur le site là-bas.org où vous pouvez réécouter cette émission. La technique aujourd'hui, Michel Thomas et Guillaume Roux. Cette émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Guillaume Géraud et préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37. Il est 15h53 sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse tout de suite avec Hervé Pochon pour son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Ah, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites assise par terre, là? C'est le boulevard Raspail.
On attend les 25 bus qui arrivent derrière.
Vous attendez qui?
Les 25 bus qui arrivent derrière.
Qu'est-ce qu'il y a marqué sur votre pancarte?
Sage, oui, mais faut pas pousser.
Ah bon, moi, je savais qu'au Vaudra, il fallait pousser.
Oui, mais pas sur les sages-femmes.
Un quart des sages-femmes sont ici aujourd'hui à Paris pour manifester et revendiquer leur statut médical.
Bonjour à tous et bienvenue boulevard Raspail. Donc, il y a un quart des sages-femmes, c'est-à-dire 5000 sages-femmes.
Sachant et... qu'au moins 5000 sages-femmes travaillent aujourd'hui parce qu'elles sont réquisitionnées dans les hôpitaux.
Mais pourquoi vous n'êtes pas content? Qu'est-ce qu'il y a, les sages-femmes? Il n'y a plus de bébés?
Si, il y en a beaucoup et c'est pour ça qu'on est... on a un statut aujourd'hui qui est considéré comme paramédical. Cigogne, mais papy jeune. On a...
Pourquoi vous criez comme ça?
On a fait 5 ans d'études et on est reconnu qu'à 3 ans d'études. On est un statut médical payé et reconnu paramédical. On a une grille indiciaire de salaire qui est basée sur les grilles paramédicales alors que notre statut est celui de personnel médical.
Comme les médecins et les dentistes.
Ah, c'est ça, vous voulez être reconnu et vous voulez qu'on vous appelle docteur?
Non, on est sage-femme, on n'est ni médecin ni infirmière, on est sage-femme. Et aujourd'hui, on fait plus de 80 000 accouchements en France. 80% des accouchements sont réalisés par des sages-femmes aujourd'hui en France.
Bah oui, c'est votre métier.
Et oui.
Mais alors qu'est-ce qui va pas?
On fait pas que ça, on suit les grossesses, on fait les échographies, on fait le suivi gynécologique, on fait la rééducation du périnée.
Bon, mais alors, ça c'était prévu dès le départ, vous saviez que vous alliez faire ça?
C'était prévu, mais la reconnaissance ne suit pas. 5 ans d'études, au fur et à mesure des années, le nombre d'études s'est rajouté et la reconnaissance est restée à 3 ans. Un plan de périnatalité a été prévu pour 2014. Le plan de périnatalité prévoit tout ce qui va être mis en place autour de la naissance et des enfants. Et les sages-femmes ne sont pas dans ce plan de périnatalité. Elles ont été oubliées. On veut être des sages-femmes premier recours. Patricien, premier recours. On sait suivre les grossesses physiologiques.
Et c'est comment votre prénom?
Leslie.
Et Leslie, vous êtes sage-femme où?
Je suis sage-femme en Ariège.
On est venu à plus de 14 de l'Ariège.
On est parti hier soir à 20h pour arriver aujourd'hui manifester à Paris. Un tiers de notre équipe est là aujourd'hui.
La moitié de notre équipe.
Mais alors, comment font les femmes enceintes chez vous, là, dans l'Ariège?
Le minimum est assuré.
Ah bon?
Voilà.
Vous me rassurez.
Les médecins nous soutiennent dans nos revendications.
Bon, mais alors, concrètement, vous voulez quoi? Gagner plus?
On veut être reconnu comme un statut médical, ce qu'on est avec les études qu'on fait. Et effectivement, on veut que le salaire y suive. Et qu'on ait suffisamment d'effectifs pour continuer à entourer les femmes comme on le fait encore aujourd'hui, mais au détriment de notre santé.
Vous aviez déjà manifesté il y a quelques années pour les mêmes raisons.
Le ministre nous a oubliés il y a 10 ans, 12 ans.
Et là, vous avez plus d'espoir?
Oui, oui, là, on va réussir, on va pas lâcher.
On va la voir, la Marisol.
Ça représente combien d'augmentation de salaire, ce que vous cherchez à avoir?
On n'a pas fixé exactement l'augmentation.
Il faudrait peut-être fixer parce que là, si vous manifestez...
de plus.
Non, combien? On veut
combien ça sent pour vous?
On veut surtout que le statut soit établi, comme ça tout en découlera et les grilles salariales seront négociées en fonction.
Et alors pourquoi vous avez un masque blanc sur la tête? Vous voulez pas qu'on vous reconnaisse?
Parce qu'on n'est pas reconnus, on est invisibles, on est des fantômes.
On est oubliés, toujours.
Et vous faites quoi, vous?
Je suis sage-femme.
Pourquoi vous distribuez les dossiers, vous?
Parce que je suis le contact presse de la délégation. C'est hyper important, il y a tout dedans, il y a toutes les infos, le rapport de la Cour des comptes, l'enquête Européristat qui montre qu'on est des très très mauvais élèves en termes de santé périnatale.
Pourquoi? Vous faites que des bêtises?
Ah, c'est pas nous, c'est le gouvernement qui fait des bêtises.
Ah,
qui, si redonnait aux sages-femmes la place qu'elle devrait occuper, comme les sages-femmes l'ont en Angleterre, comme les sages-femmes l'ont dans les Pays-Bas, etc., et nous mettent enfin en avant et qui nous rendent une visibilité qu'on n'a pas aujourd'hui, il y aurait beaucoup plus de naissances...
En France?
Non, y aurait pas...
Vous bloquez des bébés ?
Non. Ah bon. Des naissances, il y en a. Mais il y aurait des meilleurs chiffres en termes de mortalité périnatale, ah oui. Parce qu'on est actuellement au 20e rang sur 30 pays.
Ah oui, au niveau de la sécurité des naissances, si je puis dire.
En termes de mortalité périnatale, c'est-à-dire des mères et des bébés. C'est très mauvais.
Oui, c'est pas mauvais. Qui sont les premiers ?
Les premiers, ça doit être la Suède ou les Pays-Bas.
Toujours la Suède. Bah, hein.
Ouais, ils ont compris ce qu'était une vraie politique de santé publique et de mettre les sages-femmes en avant et premier recours.
Et votre prénom ?
Agathe.
Attends, pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain. Ouais, putain, juste France Inter, c'est juste la classe, quoi, putain.
France Inter, on est dedans depuis petit.
GECORENOV, j'économise. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Si en hiver, vous payez d'importantes factures de chauffage pour avoir une maison où il fait toujours froid, eh bien, ça va changer. Aujourd'hui, vous pouvez faire financer jusqu'à 80% de vos travaux d'économie d'énergie grâce à des aides publiques. Pour réduire vos prochaines factures, allez sur rénovationinfoservices.gouv.fr ou appelez le 0810 140 240, prix d'un appel local depuis un poste fixe.
GECORENOV, j'économise. 0810 140 240.
C'était un message du gouvernement.
France Inter présente Les Garçons et Guillaume à table, un film de Guillaume Gallienne, au cinéma le 20 novembre.
En fait, maman, j'ai répété.
Avec Guillaume Gallienne, Françoise Fabian et André Marcon.
Tu sais, il y en a plein qui vivent très heureux.
Un plein de quoi ?
Retrouvez Françoise Fabian demain à 18h20 dans Jour de Fred.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations avec Aurélie Bambuc.
Et les forces de l'ordre sont toujours fortement mobilisées à Paris pour retrouver un homme suspecté d'être l'auteur de 2 fusillades. La première a visé le siège du journal Libération ce matin. L'homme a fait irruption dans le hall. Il a blessé grièvement un jeune assistant photographe de 27 ans avant de prendre la fuite. À la mi-journée, il a tiré des coups de feu à la Défense devant la tour de la Société Générale. Il n'y a pas eu de blessés. Il aurait ensuite contraint un automobiliste de le conduire sur l'avenue des Champs-Élysées avant de le relâcher. La capitale est désormais sous haute surveillance policière, hélicoptères et patrouilles pour retrouver le tireur. Sécurité renforcée également devant les sièges des médias parisiens, car selon les images de télésurveillance, le tireur de Libération serait le même qu'à BFM TV. Vendredi dernier, un homme est entré au siège de la chaîne et a menacé un rédacteur en chef avant de s'enfuir. Première conséquence judiciaire des manifestations violentes contre l'écotaxe en Bretagne. Le 2 novembre, lors d'un rassemblement de 15 000 personnes, des échauffourées avaient éclaté. 3 hommes comparaissent cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Quimper. 2 pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ils auraient jeté des bouteilles de verre sur les policiers. Le 3e homme comparaît pour violence en réunion. Ils risquent chacun 3 ans d'emprisonnement. Ils veulent bloquer Paris pour exprimer leur mécontentement face à la surfiscalisation. Les agriculteurs d'Île-de-France à l'appel de 2 syndicats. Des rassemblements sont prévus jeudi sur tous les axes routiers menant à la capitale. François Hollande, soucieux d'être utile à la paix pour son premier voyage officiel au Proche-Orient. Le chef de l'État français était à Ramallah ce matin, étape palestinienne au lendemain d'un accueil amical israélien. Le président français a exhorté les Palestiniens à faire un geste pour permettre la conclusion d'un accord de paix avec Israël. Il a également demandé l'arrêt total et définitif de la colonisation israélienne, une position française jugée équilibrée par le président palestinien Mahmoud Abbas. François Hollande doit s'adresser cet après-midi à la Knesset, le Parlement israélien. Le premier voilier de la Transat Jacques Vabre attendu dans moins de 2 heures à Itajaï, au Brésil. Le trimaran Mode 70 de Sébastien Josse et Charles Caudrelier en passe d'achever la traversée de l'Atlantique en moins de 12 jours. Les skippers ont quitté le Havre le 7 novembre dernier dans une flotte de 43 bateaux. Les Mode 70 sont les plus grands et les plus rapides. Enfin, un sapin de Noël penché, ça fait parler à Strasbourg. Le traditionnel grand sapin installé sur la place Kléber à l'occasion du marché de Noël est aussi penché que la tour de Pise. Les Strasbourgeois le constatent depuis son installation le 5 novembre, mais pas de danger selon la municipalité. C'est dans sa nature, le sapin de 31 mètres de haut a une forme naturellement courbée. Sa décoration en vue du marché de Noël, qui ouvrira le 29 novembre, devrait permettre de corriger cette perception.
Tous les soirs,
à partir de 21h.
Rock, pop, électro, R&B.
Les soirées musicales d'Inter.
Hip-hop, garage, grime, metal, bass music, new wave.
Du lundi au jeudi.
Cosmic Fantasy.
Retrouvez Barbara Carlotti.
Un voyage cosmique dans l'hyperespace de la musique.
New wave, no wave, chill wave.
À 22h, Aurélie Sfez.
Avec vous, Baptiste Etchegaray.
Et oui.
Techno.
Des comédiens qui chuchotent à l'oreille des musiciens.
House.
Des artistes qui font l'amour avec des artistes.
Ghetto house.
Parce qu'on est ouvert la nuit.
Grunge, black metal, Norwegian metal.
À 23h15.
On n'oublie pas, hein, là.
Laura Lichmann.
Des nouveautés de tous les styles, tous les genres, tous les styles, tous les genres, tous les styles.
Et 2 heures d'addiction le vendredi à 21h.
La mauvaise habitude du vendredi soir.
Avec Laurence Pierre.
Prenez de l'altitude et bon voyage.
Retrouvez les soirées musicales d'Inter.
Les programmes.
Les rendez-vous.
Sur franceinter.fr.
France Inter.
La voix est libre.
16h04 sur France Inter, l'heure du carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon.
Bonjour Aurélie Bambuc, on vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, un bon dimanche, et on est content de vous retrouver avec d'abord un jeune pianiste japonais. Vous savez, cette émission propose des disques et aussi nous sommes là pour soutenir certains concerts. Alors ce soir même à Paris, il y a un concert, je sais bien que c'est tardif, mais on nous dit qu'il y a encore quelques places à l'hôtel Shangri-La. C'est un hôtel tout à fait superbe qui vaut la visite. De toute façon, c'est 10 avenue d'Iéna dans le 16e, et Kotaro, qui a fait le tour du monde déjà, qui a obtenu plein de prix, qui joue avec les plus grands orchestre, eh bien, il va donner un programme de Debussy, Chopin, Poulenc, Satie, Stravinsky. Le voici tout de suite dans une des trois fantaisies Stücke, c'est-à-dire pièce de fantaisie opus 111 de Robert Schumann, très vite avec une expression passionnée. Très vite, avec une expression passionnée, une des trois fantaisies Stücke, une pièce de fantaisie opus 111 de Robert Schumann, par le jeune et brillant pianiste Kotaro Fukuma, qui sera, je le rappelle, ce soir à l'hôtel Shangri-La à Paris, 16e, 10 avenue d'Iéna. Beau programme, prix des places, 30 euros, je préfère le dire avant, pour qu'il n'y ait pas de surprise, mais c'est un très beau concert, évidemment, en perspective. Et voici un disque intéressant, avec la naissance de la symphonie, et on peut dire que c'est un beau catalogue des premières œuvres. Les symphonies, au départ, départ, c'était des pièces qui étaient destinées soit à introduire une cantate, soit à commencer aussi un opéra. Donc ça a balbutié, c'était des petites touches, on peut dire, symphoniques. L'orchestre jouait un petit peu, quelquefois donnait les premières impressions de l'opéra ou de la cantate. Il reprenait des thèmes ou les présentait avant même qu'on les entende. Bref, c'est vraiment quelque chose qui a balbutié au XVIIIe siècle, et on trouve des petites symphonies chez Handel, chez Franz Xaver Richter, qui commence aussi avec un final qui a 2 minutes 55. On est loin des symphonies de Mahler ou de Bruckner qui sont énormes. Et moi, je vais commencer, si vous voulez bien, en prenant dans ce disque une symphonie de Johann Stamitz. Stamitz a été un des fondateurs vraiment de l'orchestre moderne. Il a donné l'exemple à beaucoup, et voici tiré de sa 4e symphonie à 4, c'est-à-dire à 4 voix, 4 parties en ré majeur, un presto.